Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 28 avril 2026, il est 6h avant minuit. Merci de nous écouter à Rennes sur le 88.4 FM et dans le reste de la Bretagne sur Radio Bois. Dans le chapitre football et pâtisserie, on en a parlé hier, Rennes a vaincu 2-1 contre Nantes dimanche soir. L'occasion pour la boulangerie rennaise au four et au moulin près du Mail François Mitterrand de renommer son gâteau nantais. Le nouveau nom de la sucrerie, le Ligue 2. Un petit tacle qui ne manque pas de faire sourire alors que le stade rennais se rapproche de la Coupe d'Europe et manque de peu d'envoyer Nantes en Ligue 2. Voilà, c'est bon de rire, j'en parle avant le flash de Julien qui comporte un peu moins d'infos rigolotes malheureusement. On l'écoute tout de suite.
Le roi Charles III s'est rendu aux États-Unis pour fêter le 250e anniversaire d'indépendance des États-Unis. C'est la première visite d'État depuis qu'il est devenu roi en 2022. Pendant sa visite, Trump n'a cessé de faire des éloges envers le roi. Tout en restant fidèle à lui-même, les critiques ont plus sur Keir Starmer, le premier ministre britannique, lâche ou encore d'inutile pour le président américain, des insultes s'expliquant par le refus de la Grande-Bretagne à appuyer la guerre américaine en Iran. 6200 tonnes de blé et 19 000 tonnes d'orge. Le craint de la discorde entre la Russie et l'Ukraine qui l'accuse de les avoir volés. Les céréales seraient arrivées ces dernières semaines au port israélien Haïfa. C'est pour cette raison que l'ambassadeur israélien en Ukraine, Mikhail Potsky, a été convoqué aujourd'hui par Volodymyr Zelensky. L'Ukraine a déjà interpellé Israël à la mi-mai concernant l'arrivée d'un navire au même port d'Haïfa. Il provenait de territoires ukrainiens contrôlés par Moscou. La commission de l'audiovisuel public a adopté le rapport de Charles Aloncle. Après plusieurs mois de débats et d'engagements médiatiques, le rapport est accepté à 12 voix pour, 10 voix contre et 8 abstentions. Ce document contient près de 80 recommandations comme la fusion de France 5 et de France 2 ou la suppression de France 4. Le député ciotiste souhaite également que le président de France TV et France Radio soit de nouveau nommé par le président de la République. Hier, Emmanuel Macron a suscité une grande polémique suite à une visite dans un hôpital en Ariège, où il a exprimé un avis concernant la situation des médecins étrangers présents en France.
Les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Ce sont les termes employés par le président pour décrire ce qu'il souhaite durcir les relations avec l'Algérie, mais aussi pour dénoncer les difficultés que rencontrent les praticiens diplômés en dehors de l'Union européenne pour exercer. Ces propos ont par la suite fait réagir une partie de la classe politique. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a estimé que cette déclaration ne reflète pas la position du gouvernement sur les relations diplomatiques avec l'Algérie. Pour lui, l'exemple des médecins étrangers est, je cite, « un faux prétexte ne visant qu'à dissimuler les vrais problèmes ». Le problème, ce ne sont pas les médecins algériens, mais les centaines d'OQTF dangereux qui n'ont plus rien à faire en France et que le régime d'Alger refuse de reprendre, a-t-il déclaré.
Ces polémiques prouvent-elles une dépendance de la France aux médecins étrangers ?
Eh bien oui, selon l'Elysée, environ 20 000 médecins ayant un diplôme étranger hors Union européenne exercent en France et principalement à l'hôpital. Cela représente une grande part des effectifs, surtout dans les zones où l'accès aux soins est limité et dans les services en tension. Dans certains hôpitaux ou lieux ruraux, ces médecins permettent de garder un service ouvert, ce qui évite des fermetures faute de personnel. La majorité de ces soignants et soignantes viennent de pays situés dans le bassin méditerranéen, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Syrie ou le Liban. L'Algérie représente à elle seule presque 40% des effectifs. De quoi démontrer l'importance et l'impact de ces professionnels dans le système de santé français.
Justement, la France ne dépendrait-elle pas trop de ses médecins formés à l'étranger pour faire fonctionner son système de santé ?
Eh bien, l'Élysée précise que ces médecins restent indispensables pour garantir l'accès aux soins malgré les difficultés administratives qui encadrent leur exercice en France. Car oui, beaucoup d'entre eux et elles doivent passer par des procédures longues et complexes pour faire reconnaître leur diplôme en France, ce qui engendre un retard de leur intégration dans le système médical français.
Est-ce possible d'intégrer ces professionnels tout en garantissant une qualité des soins ?
Entre des besoins urgents en personnel médical, des contraintes administratives et des tensions diplomatiques, cette question reste présente. La place des médecins étrangers en France est aujourd'hui un véritable enjeu pour l'avenir du système de santé.
Merci Anaï. Deux syllabes, Coco, pour une plateforme au centre de plusieurs affaires criminelles. Le parquet de Paris a annoncé aujourd'hui ouvrir une enquête sur la réouverture de ce site, facilitant les méfaits de prédateurs sexuels comme ceux de Dominique Pellicot. Le site a réouvert en toute discrétion. Il avait été fermé par la justice en juin 2024. Son fondateur, Isaac Stedl, a été inculpé pour 8 infractions, notamment pour complicité de trafic de stupéfiants, détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique, corruption de mineurs et association de malfaiteurs. Accident en cascade. À la prison de Rennes-Vezin, 250 grammes de stupéfiants ont été retrouvés sur un détenu de retour de prison. L'homme a blessé plusieurs agents en tentant de s'échapper. Quelques minutes plus tôt, une surveillante a été violemment agressée par un autre prisonnier. Une situation d'une gravité extrême pour FO Justice. Le syndicat appelle au blocage de l'établissement et réclame des sanctions fermes. La prison de Rennes-Vezin, prévue pour accueillir 690 détenus, en compte actuellement 1000. Les agents et agentes pénitentiaires font en ce moment entre 50 et 60 heures supplémentaires par mois à cause du manque effectif estimé à 40 personnes. Plongée dans les fragilités et la beauté de la mer, les Champs Libres à Rennes invitent à admirer les clichés de la mer jamais ne s'oublie par Anita Conti, Julie Bourges, Marine Lanier, Manon Langeouère et Juliette Pavy. Des photographies permettant d'apprécier le monde océanique ravagé par l'espèce humaine à découvrir dès aujourd'hui et jusqu'au 27 septembre et c'est gratuit.
C'est la fin de ce flash. Merci Julien, c'est la fin de ce flash, on passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Qui reçois-tu ce soir, Léonore ?
Eh bien, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le président de l'association Reuze. Reuze, c'est une association de production audiovisuelle bretonne créée en avril 2025. Sa spécialité, réaliser des captations vidéo et sonores qui mêlent création musicale émergente et lieux culte breton. Pardon. Bonjour Adrien.
Hello.
Alors, question facile pour commencer, d'où est venue cette envie de créer Reuze ?
Alors Reuze, ça vient de l'envie de créer un média, une structure pour mettre un peu plus en avant les artistes bretons. Donc on l'a créé avec deux autres collègues et on s'est fait un constat, c'est que on trouve que dans le paysage musical français, il y a peu d'artistes bretons sur la carte, ou en tout cas qu'on est capable de citer. Les artistes sont souvent fiers de dire qu'ils viennent de Paris, de Marseille ou d'autres régions, mais à l'heure actuelle, il y a peu d'artistes qui se représentent comme bretons. Et donc on avait envie de créer une structure, un concept qui pouvait permettre de mettre la lumière sur ces jeunes artistes. Et donc c'est de là qu'est venue l'envie de créer Reuze en mettant en place donc des live sessions, les Reuze sessions, qui sont donc des captations musicales d'artistes dans des lieux. On essaye très souvent de faire des lieux emblématiques de la Bretagne pour mettre à la fois la lumière sur les artistes et sur cette belle région qu'est la Bretagne.
Du coup, tu nous l'as déjà un peu dit, mais Reuze, c'est une volonté avant tout de mettre en avant des artistes émergents bretons. Est-ce que tu trouves que ces artistes de demain, ils manquent de place pour s'exprimer dans la région ?
Alors, peut-être qu'ils manquent surtout de moyens de s'exposer, ou en tout cas de structures pour les exposer, parce que depuis qu'on a créé Reuze, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'artistes en Bretagne. Et que ça manque pas du tout, mais par contre qu'il y a peut-être pas suffisamment de moyens, de structures pour les accompagner, pour les permettre de pouvoir soit faire des clips, enregistrer de la musique, des tourneurs pour pouvoir essayer d'avoir des premières parties. Et donc nous on se on se présente pas comme lanceur de carrière ou quoi que ce soit. On a juste envie d'essayer de mettre un peu plus la lumière sur ces artistes pour que peut-être ils trouvent un nouveau public et donc une nouvelle audience et que ça leur permette ensuite de gagner en exposition et donc de potentiellement de pouvoir rentrer en contact avec des personnes qui vont vraiment les aider à exploser entre guillemets et à s'exporter au-delà de juste des frontières de la Bretagne.
Et tu nous as un peu parlé de votre concept innovant qui sont les re-sessions. Donc c'est des sessions qui sont produites avec des décors travaillés et réfléchis. On peut penser un peu à une production inspirée par les freestyles traditionnels qui sont ancrés dans la culture hip-hop depuis les années 70. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment fonctionne ce concept ?
Yes, tout à fait. Alors ce concept, il est en effet inspiré des freestyles, donc issus de l'univers du hip-hop. Nous, plus particulièrement, on s'est inspiré du média Grunt, qui est un peu un des pionniers dans ce genre, à avoir démocratisé ce concept de freestyle face à une caméra, et en invitant plein d'artistes. Donc on voulait vraiment reprendre ce concept de chaque session, on met en avant un artiste qui des fois invite des invités. Et donc la touche qu'on voulait ramener, c'était ce décor, un peu un décor reconnaissable à chaque session. Et donc le but, c'est vraiment que les artistes viennent, ils ont autant de temps qu'ils veulent pour performer soit des sons inédits, soit des sons déjà écrits. Et donc nous, on les accompagne dans la réalisation, dans la production. On vient avec notre équipe technique, le matériel, on cherche en amont le lieu. Et voilà. Et après, on laisse juste les artistes performer. Et donc, nous, on est juste les accompagnateurs, on va dire, et ceux qui leur permettent de faire cette prestation.
Et justement, ces artistes et ces lieux que vous mettez en avant, comment est-ce que vous les choisissez ?
Alors, les artistes, on fait une petite recherche, une session d'écoute à chaque fois. On essaye de se retrouver une fois ou deux fois par an où justement le but du rendez-vous, c'est d'écouter des artistes, donc soit des recommandations d'amis, soit en cherchant sur des playlists, sur des sites, sur YouTube, et en fait juste les artistes qu'on choisit, c'est des artistes dont on apprécie la musique, dont on aime le talent, la proposition. Jusqu'à présent, on a globalement invité des artistes rap, parce que c'est un peu le style de musique que les personnes avec qui on a créé Reuse, on écoute principalement, mais on aimerait bien essayer de s'élargir à d'autres styles de musique. Donc on est vraiment ouvert à un peu tout dès qu'il y a un truc qui nous touche. Et pour ce qui est des lieux, ça, on réfléchit aussi des fois avec les artistes. S'il y a des lieux que les artistes aimeraient potentiellement instaurer, nous, on s'occupe de les contacter, de voir si c'est possible de faire un tournage, si c'est possible, quelle est la logistique à mettre en place. Et voilà. Souvent, on vient avec déjà, nous, une proposition de lieux, des lieux qu'on a en amont contactés et dont on est sûr qu'on pourrait aller tourner. On les propose aux artistes. Si ça leur plaît, tant mieux. Et si ça leur plaît pas, on essaye de trouver d'autres solutions. Voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de que ça plaise aussi aux artistes, que ça nous plaise, et que donc du coup, d'un commun accord, on trouve un point d'entente.
Et pour l'instant, les live sessions, c'est principalement à Rennes. Je crois que vous avez comme objectif d'élargir cet espace de travail.
Ouais, tout à fait. Pour l'instant, on est globalement à Rennes parce que c'est vrai que c'est plus simple pour nous, sachant qu'on est de Rennes, que le matériel qu'on loue, qu'on prend, il se trouve à Rennes. Donc il y a des enjeux logistiques qui sont moindres. Et pour l'instant, on reste une association bénévole et qui ne demande pas non plus de rémunération. Les artistes viennent gratuitement, on leur demande pas de nous payer ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que pour l'instant, rester à Rennes, c'est plus simple en termes de coûts. Maintenant, on aimerait beaucoup s'exporter au-delà de Rennes, parce que le but, c'est vraiment de mettre la lumière sur les artistes bretons et donc sur les paysages bretons. Donc on aimerait pouvoir aller tourner par exemple à Saint-Malo, à Saint-Brieuc, dans le Finistère, mais ça demande un peu des fonds, des financements que pour l'instant on n'a pas encore, qu'on est en train d'essayer de trouver. Mais voilà, en tout cas on a hâte de pouvoir essayer de trouver d'autres décors à l'extérieur de Rennes.
Justement, je me permets de revenir un peu sur ce côté association, comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors du coup, nous, au sein de l'association, on est trois. Donc il y a moi, Suliak et Sarah. Suliak qui s'occupe de la partie image, montage, et Sarah qui s'occupe de la partie communication. Donc on va dire qu'on est les membres du bureau, c'est comme ça qu'on s'appelle de manière légale dans les termes de l'association. Et après, donc nous trois, on gère un peu l'association, on trouve les idées, les artistes et tout. Et ensuite, à chaque tournage, on fait appel à des bénévoles qu'on a rencontrés soit via des connaissances, soit via des écoles de cinéma. Donc on a des cadreurs, des ingénieurs son qui viennent sur les tournages. Et ensuite, en post-production, on a aussi une graphiste qui nous a aidé à refaire aussi toute la DA du compte et qui nous aide à chaque fois qu'on a des nouvelles sessions. Et on a une assistante chargée de com, donc qui aide Sarah pour la création des posts, mais aussi la relation presse, parce qu'on essaye de trouver d'autres biais pour parler de nous, donc via la presse, etc. Et donc voilà, donc c'est vraiment on est vraiment une association qui est ouverte à toutes les personnes qui ont envie un peu de s'investir. On essaye toujours de trouver des nouveaux postes que des gens pourraient remplir, parce que le but c'est aussi de faire entre guillemets travailler des gens, ou en tout cas donner l'opportunité à des personnes d'expérimenter des choses qui leur plaisent à travers un média qui leur parle.
Merci Adrien, avant de continuer on écoute un extrait de Nemoville lors de son passage à la Rose Session au début du mois.
J'ai ce truc dans la poitrine qui m'empêche de vivre. Demain sera un nouveau jour, demain sera un nouveau jour, demain tout ira mieux, demain sera un nouveau jour, demain sera un nouveau jour.
Tu nous l'as dit, les recessions, c'est avant tout un travail en partenariat avec les artistes. Comment ça s'est passé justement cette dernière création avec Nemovi, Gris Anthracite et Béral?
Alors Nemovi, c'est un artiste qu'on avait découvert en début d'année 2025, je crois, qu'on avait beaucoup apprécié et on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de collaborer avec lui. Je crois que le premier contact, il a été établi en septembre, il me semble. Et donc, ce qui tombait bien avec Nemovi, c'est qu'il nous a dit qu'il travaillait sur un projet et que ça pourrait parfaitement lui faire une bonne promotion de faire une recession avant la sortie de son projet. Son projet est sorti il y a une semaine et donc on a décidé d'un commun accord entre son agenda et le nôtre de tourner la session en décembre. Donc il y avait quand même 3 mois d'espace entre le premier contact et le tournage final, mais il fallait forcément que les agendas concordent, que l'agenda du lieu aussi concorde, parce que cette session on a eu la chance de pouvoir la tourner dans la piscine Saint-Georges, et donc il fallait qu'il y ait un créneau bien précis pour pouvoir tourner cette session. Et donc on l'a tournée en décembre et le courant est super bien passé. Nemovi est venu du coup avec Gris Anthracite et Béral, deux artistes avec qui il a l'habitude de collaborer, et c'était trop chouette, la connexion s'est super bien passée, la session s'est super bien déroulée, et tous les sons qu'il a performés, c'était un peu des nouveaux sons et des anciens sons, donc ça permettait de lui faire une promotion sur les sons qui allaient arriver et aussi permettre aux nouveaux auditeurs de potentiellement aller écouter ses anciens projets. Et donc c'était vraiment une très chouette connexion, et en plus de cela, pour faire un peu de pub pour Nemovi, Nemovi a été choisi par le processus Horizon qui est mis en place par Antipode, donc c'est un tremplin pour les jeunes artistes, donc ça nous tenait encore plus à cœur de l'inviter et de lui donner un autre coup de projecteur sur sa musique.
Et ces invités, ils font une prestation en live qui est ensuite diffusée sur vos réseaux. Comment est-ce qu'on fait pour retransmettre l'authenticité du moment en filmant?
On le réfléchit beaucoup en amont, notamment on essaye d'aller voir les lieux en amont pour essayer de voir quels axes seraient les plus propices pour justement retranscrire un peu l'énergie des artistes. Et ensuite c'est beaucoup dû à nos ingénieurs son, notre ingénieur principal qui s'appelle Marin, qui nous suit depuis la première session et qui à chaque fois fait le travail d'entrer en contact avec les artistes pour savoir s'ils ont des demandes particulières pour l'enregistrement. Par exemple sur la dernière session avec Nemovi, il y avait à un moment donné des passages avec de l'autotune, donc beaucoup de termes techniques liés justement à ce réglage du son, et donc c'est Marin qui s'occupe de ça, de faire en sorte que lors de la session les artistes, le retour qu'ils aient dans le casque c'est le retour qu'ils veulent, et que du coup le rendu soit exactement celui voulu. Et ensuite, avec celui-là qui s'occupe du cadrage et tout, on fait en sorte de trouver les axes pour retranscrire le mieux possible l'énergie que les artistes donnent. Et après, des fois, c'est seulement les artistes en eux-mêmes qui ont tellement une énergie qu'on a juste à poser nos caméras et ça fait l'affaire. Et c'est ça qui est chouette aussi.
Et vous laissez aussi de la place dans les formats, on en a un peu parlé avant, mais là, celles qui sont postées sur vos chaînes YouTube, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de minutes. C'était important pour vous de laisser cette place ?
Ouais, totalement. C'était super important de laisser la possibilité aux artistes de s'exprimer autant de temps qu'ils le veulent. La première session qu'on a tournée durait 20 minutes et la deuxième durait 45 minutes. Ça faisait vraiment un écart. énorme. Après la deuxième session, il y avait 5 invités, donc il fallait aussi laisser la place aux 5 invités de pouvoir s'exprimer. Maintenant, on essaye de faire aussi attention à pas non plus faire des formats beaucoup trop longs, parce qu'on se rend compte nous-mêmes en tant qu'auditeurs que on sait que les gens ont tendance à facilement décrocher de tout ce qui est contenu un peu audio, vidéo au bout d'un certain temps. Et donc le but, c'est d'essayer de trouver ce bon entre-deux, tout en permettant aux artistes de s'exprimer comme ils veulent et aussi de faire un format qui est digeste, on va dire, pour les auditeurs.
Et pour les artistes, c'est aussi l'occasion de créer de nouveaux textes en dehors du studio et sans passer directement par des boîtes de production. Qu'est-ce que ça change pour eux ?
Je pense que ça leur permet de déjà proposer des nouvelles choses que peut-être ils ne proposeraient pas, on va dire, sur un format studio enregistré. À la base, le freestyle a toujours été un peu un terrain d'expression, un terrain d'entraînement pour les artistes qui voulaient tester des nouvelles choses, parce que c'est pas enregistré en studio, tu payes pas le... Enfin, il n'y a pas tout ce côté un peu pro lié à venir dans un studio, enregistrer et tout. Donc je pense que c'est vraiment un terrain d'entraînement, d'expression, tester des nouvelles choses. Et des fois, ça peut permettre aussi de se rendre compte que les choses qu'on a essayées en freestyle, ça fonctionne, et pourquoi pas du coup les réenregistrer derrière. Je sais que je crois que dans la deuxième session qu'on a fait, il y a quelques couplets qui ont été donnés par les artistes qui ont ensuite fini sur des sons publiés sur les plateformes. Donc je pense que c'est vraiment cette possibilité de tester tout et n'importe quoi sans poids, on va dire, lié à un enregistrement studio.
Et dès la création de l'association, il y a eu une volonté de se diversifier. Quels sont les projets à venir ? Je crois que j'ai vu que vous aviez envie de faire une jam, par exemple.
Ouais, tout à fait. On aimerait beaucoup essayer de se diversifier. Donc déjà dans les styles, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on s'est beaucoup pour l'instant orienté vers le rap, mais on aimerait beaucoup essayer de tester d'autres styles qui nous parlent, comme le R&B, la pop. Essayer de faire des sessions avec plus d'instruments. Et un premier jet, ce serait essayer d'organiser des soirées jam où justement on invite des artistes et des musiciens à venir faire ce qu'on fait dans les vidéos, donc un peu des live sessions, mais cette fois-ci devant un public, et laisser la possibilité à des artistes de venir s'exprimer devant un public, tester des choses. Et donc ça, c'est un projet qui nous tiendrait à cœur. Et sur le long terme, on aimerait essayer de combiner ce côté live session où ça demande, entre guillemets, beaucoup de temps de préparation et où on met en avant quelques artistes. On ne peut pas en mettre énormément à la fois dans une session. Et l'organisation de ces soirées pourrait permettre à beaucoup plus d'artistes de venir et de créer un événement, on va dire, un peu plus naturel, instinctif. Et donc mettre la lumière sur encore plus de personnes. L'idée, c'est vraiment de toujours faire vivre ce côté musical de la Bretagne et d'inciter les gens à découvrir de nouveaux artistes.
Eh bien, merci beaucoup Adrien, ça donne envie. On rappelle que les prestations sont à retrouver sur votre chaîne YouTube et que vos actualités sont à suivre sur les réseaux sur Reuse BZH.
C'est ça, merci beaucoup.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
La chronique du mardi, c'est décryptage fake news. Et aujourd'hui, on parle IA et désinformation. Effectivement, le nec plus ultra de l'IA française est à la botte de régimes autoritaires, il paraît. Cette information a été révélée ce matin par le quotidien Les Échos. Et au cœur de ces révélations, la start-up Mistral, fierté bleu-blanc-rouge en matière d'intelligence artificielle, et plus particulièrement son robot conversationnel qui s'appelle Le Chat. Alors figurez-vous que le petit félin numérique diffuse de la propagande russe plus de la moitié du temps. L'entreprise hexagonale termine dernière dans un classement de 11 outils d'intelligence artificielle audités par l'organisation américaine NewsGuard. Elle est spécialisée dans l'évaluation de la fiabilité des médias et des outils numériques. L'audit a en fait été publié en janvier, mais on n'en prend connaissance qu'aujourd'hui. Alors sur les 11 robots conversationnels testés, parmi lesquels ChatGPT, Claude, DeepSeek ou Perplexity, on établit en moyenne 30% de diffusion de fake news. Mistral explose les chiffres avec 50% de fausses informations relayées en anglais et 57% en français, le tout sans correction ni mise en garde. Pour tester le chat, NewsGuard a discuté avec sa version gratuite. L'entreprise lui a présenté 10 fausses informations en utilisant 3 profils d'utilisateurs, une personne neutre, une personne vérificatrice et une personne propagatrice d'infox. Les infos en question, enfin les infox en question, une épidémie de typhus sur le porte-avions Charles de Gaulle, des centaines de soldats américains tués en Iran ou encore le chancelier allemand prétendument propriétaire d'un avion nucléaire. Résultat, le profil du vérificateur, donc celui qui cherche à savoir si une information est réelle, reçoit le plus de réponses erronées. Dans une discussion avec ce profil, le chat répète les infox dans 60% des cas en anglais et 70% des cas en français. C'est donc quand les internautes lui font le plus confiance que l'IA est la moins fiable. Parmi les sources utilisées par le robot, Storm 1516, réseau russe spécialisé dans la création de faux sites d'infos, mais aussi Pravda, un ensemble de 150 sites pro-Kremlin basés à Moscou. Ces réseaux inondent le web de fake news et donc aussi les données d'entraînement et les sources consultées par l'IA. L'IA qui va chercher des sources sur Internet sans pour l'instant vérifier ses sources. Là, on a encore besoin des humains et humaines pour ça. Et s'il y a un meilleur score en anglais, c'est parce qu'il y a plus de ressources anglophones et plus de contenu de fact-checking qu'en français. Mistral revendique plus d'un million d'utilisateurs et utilisatrices réguliers. La firme a aussi conclu un contrat avec le ministère des Armées en France, de quoi légitimer le produit et donner l'impression au public qu'on peut lui faire confiance. Ce n'est pas le cas, alors méfiez-vous, croisez vos sources quand vous vous informez. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique fake news.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Vérifie s'il y a des fake news sur le répondeur.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ?
Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Bah, il y en a peau parce qu'il n'y a rien sur le répondeur. 02 30 96 25 35, on vous écoute, peu importe d'où vous venez en Bretagne, laissez-nous un message vocal, on le diffuse à la fin de l'émission. Si vous avez des retours à nous faire sur nos super interviews, nos super invités, sur nos flashs, sur nos reportages, n'hésitez pas. 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique, à demain dans 6 heures avant minuit.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très bien.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.